Alors, une question de Julien. Bonjour à tous. Monde extérieur limité, monde intérieur illimité, bien que ce soit holographique à l'intérieur de chacun. Comment savoir quelle entité on rencontre en sachant qu'elles sont sur Terre pour expérimenter? Par l'expérience, leur féminin sacré. Je pars de l'éthique que s'ils sont heureux dans leur unicité, de leur masculin, féminin, donc dans leur complétude et relié au tout, les échanges vibratoires dans le nouveau monde me semblent parfois un peu débordés dans la multiplicité. Je ne canalise rien et pourtant j'admire les couples divins qui ont réussi à être tout simplement eux-mêmes. Bon, là, c'est pas une question, là. Bon, ok. Bon, bah, voilà. C'est pas une question, il n'y a pas de point d'interrogation, là. Bon, je ne vois pas ce que je peux répondre. Une question de Mille. Je me posais des questions sur des synchronicités autour du lion et ma petite voix m'a orienté vers le peuple de la constellation de la Lyre. Peux-tu m'en dire plus? Ben, c'est que si ta petite voix t'a orienté vers là, c'est que ben, tu viens, t'es passé par là, tout simplement. Une question de Gact sur la flotte galactique et vaisseau. Les frères galactiques sont-ils en contact avec leur soi supérieur ou c'est juste pour les entités incarnées sur Terre? Toutes entité à un soi supérieur. Peut-on les considérer comme des maîtres ascensionnés vu qu'ils sont au-delà de la 5D? Non. Je dis tous, non. Il y en a, oui. Et tous, non. Bon. Est-ce que on peut considérer quand c'est au-delà de la 5D? Vous savez, quand vous allez rencontrer, enfin si vous allez rencontrer, quand vous rencontrez des dracos, des archontes et tout ça, officiellement on dit qu'ils sont jusqu'en 4D, mais ils ont aussi leur partie, d'autres parties d'eux-mêmes qui sont en 5D, en 6D, et qui vont comme ça jusqu'à la 12D sans problème, même la 24e. Donc, quelque part, en quoi ils ne seraient pas ascensionnés eux aussi? Ok. Donc, il ne faut pas, croire que parce qu'une entité est dans une dimension supérieure à vous, qu'elle est supérieure à vous. Non, d'abord, sur un principe de base, les lois de l'un, tout le monde est égal. Ça veut dire qu'une fée est aussi importante qu'un archange. Il n'y a pas un archange qui va venir et qui va regarder la fée et dire « moi, je ». Non, ça n'existe pas. C'est vrai que ça change beaucoup de choses, hein, mais ça n'existe pas. Quels que soient les individus, les entités, qu'ils soient de la Fédération Galactique ou qu'ils appartiennent aux êtres de la nature ou des entités galactiques ou extra-galactiques, eh bien, considérons la petite fée ou même encore des êtres de la nature, on va dire, encore plus élémentaux, on va dire, avec sur un pied d'égalité totale. Et il n'y en a pas un qui dira « moi, je suis plus intelligent que toi ». Ça n'existe pas non plus. On voit les choses différemment et quand vous regardez aussi bien ceux qu'on va traiter de mauvais garçons, regardez-les pour ce qu'ils sont et vous comprendrez qu'en fait ils ont suivi une voie évolutive et si leur petite voix avait pour fonction de dire je vais pousser le masculin à fond, eh bien il fait son job. Et dites-vous bien que il y a 50% de masculin, 50% de féminin, et qu'il est normal qu'il y ait des involvants qui soient là pour vous foutre des coupures au cul. Parce que comment vous allez développer votre discernement? Comment vous allez développer votre maîtrise intérieure, votre autorité à vous? C'est comme dans un couple, il y a papa, il y a maman. Alors maman, c'est toujours en rondeur, c'est toujours... Des fois, il y a des mamans qui portent la culotte et c'est papa qui est en rondeur, mais c'était comme ça chez moi. Les filles, c'était les montres religieuses et papa, c'était le copain avec qui on pouvait sortir pour qu'on soit dans un environnement plus calme et plus cool. Mais globalement, vous avez une autorité. Et l'autorité, elle fout des baffes et elle vous dit les choses droit dans les yeux et c'est pas toujours sympa. C'est tranchant, c'est coupant, c'est froid. On est d'accord. Mais ça fait du bien quand même de temps en temps. Mais s'il y a que ça, ça fait des gens rugueux. Mais s'il n'y a pas ça, ça fait que des gens rondouillards. Et résultat, c'est du mou. Donc il faut un équilibre entre du dur et du mou. Il faut un équilibre entre du masculin et du féminin. Donc, quand vous avez des aveuglements notoires en face de vous, dites-vous bien qu'ils jouent leur rôle et leur unicité. Simplement, au lieu d'être le mouton qui a peur, vous êtes droit dans vos bottes, il vous regardera droit dans les yeux et vous savez que vous êtes à égalité. Et à partir de ce moment-là, il ne peut plus grand-chose pour vous. Pourquoi ? Parce que vous affirmez votre lumière. Et comme vous êtes en connexion avec votre soi supérieur, vous êtes en connexion avec le son direct. Et donc, il ne peut rien faire. Et c'est pour ça qu'arrivé à un certain stade de luminosité d'un individu, c'est-à-dire qu'un individu a atteint un certain niveau vibratoire, c'est-à-dire qu'il a mis plus de féminin, bah, il a une vibration, et l'autre en face, bah, au début il aime bien un peu la vibration, mais arrive à un moment, ça l'incommode. Ça l'incommode. Pourquoi ? Parce que ça l'oblige quelque part à développer son féminin, et il n'est peut-être pas d'accord. Donc comprenez cela, c'est que il n'y a pas de bon et de mauvais. Il y a simplement que des entités qui suivent leur chemin. Donc c'est comme si vous étiez sur un champ de bataille et dire il y a l'autre là, il veut me tuer. Alors je me défends. Mais si je suis sur le champ de bataille, c'est pas seulement pour me défendre, parce que sinon je serais resté chez moi. Non, ça veut dire que si je suis un champ de bataille, c'est qu'on m'a dit d'y aller ou que j'y suis allé de bon cœur. Et puis lui c'est pareil. Simplement vous vous battez pour une idée différente. C'est tout. Mais il a le droit à votre respect. Et d'ailleurs, généralement, quand vous avez un adversaire à votre niveau, vous le respectez. Même s'il est en face. Alors, pourquoi certains frères galactiques de notre système solaire, comme les Vénusiens ou les Martiens, ne sont-ils pas devenus Christ, sachant qu'ils sont déjà ascensionnés ? Est-ce un privilège d'être Christ ? Alors oui, c'est un privilège d'être Christ, dans le sens que il faut savoir que quand vous êtes un Martien ou un Vénusien, vous avez une couleur, parce que ça fait partie des couleurs du système solaire. Mais la planète expérimentale, celle qui est multicolore, c'est Urantia Gaïa. Donc nous avons tous eu des incarnations en tant que Vénusien, que Martien, que Mercurien, que tout ce que vous voulez, toutes les planètes, on a été les visiter. On s'est incarné dans ces planètes. Mais le but, c'est aujourd'hui de faire l'unification de toutes ces couleurs. Or, toutes ces couleurs ressemblent à tous vos chakras, à tous vos plans d'existence. Donc quand vous aurez unifié votre première dimension, votre deuxième dimension, regardez par rapport à l'archiphorétique au niveau du corps jusqu'à la cinquième, vous êtes un maître ascensionné. D'accord. Voilà pourquoi la dernière planète se trouve au cinquième chakra, au niveau de la gorge, le verbe créateur, parce que vous touchez le moteur du ciel. Après le reste, c'est que de la... C'est pour ça que je vous ai parlé de la grande couronne et de la petite couronne. Parce que le reste, c'est du féminin. Alors quand on dit les étoiles de Marie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Marie n'est pas un archange. Ah, mais alors c'est quoi Marie ? Marie, c'est un ange ? C'est un archange ? Ah, est-ce que c'est un arc ? Eh ben, en quelque sorte, oui et non. Ah bon ? Il y a quelque chose d'autre ? Oui. C'est que tout simplement, ce que nous nommons Marie, ou Eloah Isis Marie, parce que quand vous dites Eloah Isis, enfin Eloah principalement, ça veut dire que c'est un arc. C'est-à-dire qu'elle est entre la 19e et la 24e dimension. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que cette vibration de Marie, c'est la vibration féminine de la galaxie, tout simplement. Et elle a forcément une contrepartie masculine, parce que sinon, si elle n'était que vibration et qu'il n'y avait pas une géométrie, elle ne pourrait pas pouvoir rentrer dans cette géométrie, et cette géométrie est apportée par Michael. Et Michael est le support. Et le support, c'est comme un tissu, et on va dire qu'à ce moment-là, Marie serait la couleur et le parfum du tissu. Mais s'il n'y a pas le tissu, le parfum, il s'évapore, et la couleur, elle est nulle part. Donc, grosso modo, Marie a reçu bien sûr le titre d'arc, parce que si vous prenez le cercle avec les 24 dimensions dedans, eh bien elle couvre la totalité des 24 dimensions. Donc forcément, quand vous allez être en contact avec les archanges, vous allez forcément être en contact avec Michael, d'abord en tant qu'ange, ensuite en tant qu'archange. Et quand vous êtes en contact en archange avec Michael, vous aurez forcément en face Marie. Et si vous avez en face Marie, vous aurez forcément Métatron qui sera au milieu, parce que lui, il est là pour jouer avec le masculin et le féminin. C'est-à-dire que Métatron joue avec le tissu de Michael et la vibration de Marie. Bien, donc, commençons par les anges, hein? Et vous savez que votre soi supérieur est un ange, hein, puisqu'il navigue entre la 7e et la 12e dimension. Donc, quand vous voulez communiquer avec les anges, communiquez avec votre soi supérieur. C'est déjà pas mal. C'est le bon début, on va dire, le commencement. Quand ils sont déjà ascensionnés, ça veut dire augmenter sa fréquence. Donc effectivement, ils ont la fréquence, mais ils sont sur une seule couleur. Or nous, sur la Terre, on est l'arc-en-ciel. Donc, devenir Christ, on va dire arc-en-ciel, c'est-à-dire avec toutes les couleurs, c'est quand même plus costaud que d'être juste un être ascensionné. Il faut savoir que s'ils sont les Vénusiens et les Martiens, c'est qu'ils ont forcément leur esprit directeur dans le Soleil. Donc ça veut dire que ce sont des frères, c'est des parties de vous-même. J'ai vu récemment qu'une personne, pendant un dédoublement dans l'astral, a pu apercevoir qu'il se déroule des guerres galactiques juste au-dessus de nous, entre les différentes civilisations. J'ai pu apercevoir des photos de la NASA, des débris dans l'espace, où on voit clairement les choses. Certains veulent empêcher à tout prix l'ascension de la Terre. Oui. Ainsi, à la suite du conflit, de nombreux êtres reptiliens et alliés ont été forcés et même poussés à rester bloqués dans le plan éthéré proche de la Terre. Cette raison et la pression exercée sur les reptiliens les empêchant de contacter leurs semblables sur d'autres planètes et de demander de l'aide, car elles sont maintenant sous le contrôle de l'Alliance Galactique Bienveillante. Je dis ça parce que souvent j'entends dire des gens dans la spiritualité bisounours que tout est beau et magnifique dans le ciel, mais en fait c'est le contraire qui se passe. Ce qu'il faut comprendre, c'est le ciel et le ciel. C'est-à-dire que tu as le ciel spatial, c'est-à-dire que quand tu regardes effectivement les galaxies, tout ça, enfin les galaxies, le ciel, avec les planètes, etc., et ben c'est un terrain de jeu, hein, c'est le bac à sable, comme sur Terre-Mère, simplement c'est là, au lieu de parler juste du bac à sable, c'est qu'il y a la cour de l'école, plus le terrain de l'école, plus dans la commune, donc ça va un tout petit peu plus loin, mais ils ont chacun leur territoire, et ça bastonne, ouais. Donc ce que nous connaissons, et nous sur Terre, nous le connaissons aussi dehors. Or, il faut savoir, c'est que nous venons de dehors et nous sommes venus sur Terre. C'est-à-dire que la majorité des gens qui sont actuellement incarnés sur Terre ont fait des guerres galactiques. Donc il y a parmi nous des super généraux, il y a des soldats, nous avons fait tout ça. Et donc quand quelqu'un s'amuse à faire Star Wars et tout ça, dites-vous bien qu'on l'a vécu. Et c'est parce que nous avons vécu tout ça que nous avons réussi à passer les différentes épreuves pour venir sur Urantia Gaia. Car il fallait sur Urantia Gaia qu'il y ait une représentation de tout ce qui se passait dans la galaxie. Donc en clair, sur Terre, eh bien, on retrouve tout. Aussi bien ceux qui bastonnent d'un côté, que ceux qui bastonnent de l'autre, que ceux qui restent neutres. Donc on est bien à l'endroit indiqué, au lieu indiqué, et avec toutes les compétences indiquées. Car si nous arrivons à faire effectivement la véritable paix ici, sur cette Terre, ça veut dire que nous aurons fait la paix dans notre cœur. Et ça veut dire que nous aurons reconnu toutes les différentes parties de nous-mêmes, y compris la partie reptilienne. Parce que, dites-vous bien que désigner les reptiliens, ou les reptiliens c'est des mauvais, nous sommes tous des reptiliens, nous avons tous un cerveau reptilien avec une colonne vertébrale. Donc si on veut tuer les reptiliens, il faudra déjà tuer toute l'humanité. Donc là déjà, on ferait un grand pas. Donc il faut comprendre que le système central de l'humain actuellement est tout simplement reptilien. Je sais que nos amis les involvants ont voulu effectivement, entre guillemets, foutre la peur aux tripes à tout le monde avec cette histoire de reptiliens. Mais combien de gens ont compris qu'on était des reptiliens? Nous sommes basés sur la technologie reptilienne. Notre corps est basé sur la technologie reptilienne. Voilà que plus on voudra faire la guerre aux reptiliens, et plus on se fait la guerre à nous, et donc plus on tombera malade, et plus on fera des guerres, et plus on crèvera, et plus on alimentera cette partie, on va dire, reptilienne. Ah là 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 là. Donc, dans le cosmos physique, il y a de la baston, ouais. Et il y a de la baston dans différentes dimensions, parce que ce que nous voyons, c'est la version 3D, 4D que nous voyons ici du cosmos. Mais si on passait en version 5D, 6D, on verrait autre chose. Mais globalement, il y a de la baston, et à tous les niveaux. Et sur les 12 premières dimensions. On voit de plus en plus de vaisseaux dans le ciel. Comment peux-tu faire la différence entre un ITI positif et un ITI négatif, basse vibration? Bah, c'est simple, c'est ce que tu ressens. C'est-à-dire que si tu te sens bien avec, ça roule. Si tu sens qu'il y a un truc qui va pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et donc, ça veut dire, tu suis tes intuitions, ta petite voix, tes ressentis. Et tu vas savoir de quel bord il est. Parce que ça dépend de quel bord toi tu es. Parce que si tu es un involueur notoire, bah, tu vas te sentir une affinité avec les ITI négatifs. Mais si tu es un évoluant, tu vas te sentir attiré vers les positifs. Mais les positifs, par définition, sont aussi pas nombreux, mais ont une polarité complémentaire à ceux des négatifs. C'est 50-50. Le seul truc, c'est que bien sûr, pour que l'expérimentation involuante ait pu avoir lieu dans cette galaxie, il a fallu quand même laisser une partie de cette galaxie aux mains des involuants. Eh oui. Hein, si je fais une comparaison, Hitler, s'il a fait des camps de concentration, c'est que c'était pas, il a pas fait ses camps de concentration en dehors au-delà des lignes ennemies. Hein, c'est-à-dire, c'était chez lui, enfin chez lui, entre guillemets, dans là où il contrôlait. Ça veut dire que les tôles et tout ça, il les faisait dans son périmètre qui était sous son contrôle. Si Hitler avait dit, mais moi je vais faire des camps de concentration en Inde et puis aux États-Unis alors qu'il était non, il n'aurait pas pu, parce qu'il n'aurait pas été chez lui. Donc il faut comprendre que ce coin de la galaxie était obligé d'être dans les mains des involuants et complètement sous l'emprise des involuants pour que l'expérience du camp de concentration dans lequel nous sommes actuellement puisse se faire. Donc c'était tout à fait normal, et c'est pour cela qu'il y avait une certaine baston entre guillemets, hein, et que du temps du Moyen-Âge on a demandé à un certain type d'êtres de lumière, de feu, c'est ce qu'on appelle les dragons, de se retirer de l'affaire, et qu'on a dit à Michael, ma maman, tu as ton épée, tu la ranges et tu laisses faire. Et Michael, ça ne lui a pas fait plaisir, parce que lui, son objectif, c'est bien sûr que tout la justice règne, parce que Michael, c'est la justice, hein, je vous signale. Donc, la justice, c'est 50-50 et pas plus. Il y en a un qui comme vers l'autre, dépense un peu la tête, il se fait tailler en brosse, hein, ça veut dire, waouh, hein, c'est au carré. Et le surnom lui a dit, écoute, Michael, là, enfin, spécifiquement à l'archange, et écoute, là, ben c'est fini, tu ranges ton épaule de vérité dans le fourreau, et tu regardes, parce que l'expérimentation doit être involuante, et donc il faut que tu laisses, comme dire l'autre, le cancer, d'une certaine manière, se développer. Et on verra où ça va mener. Et puis après, quand je te dirai, à ce moment-là, eh bien, tu pourras remettre les choses dans l'ordre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que l'état du malade étant maintenant quasiment sur son lit de mort, eh bien, grosso modo, puisque l'humanité est sur son lit de mort, je vous signale que quand même, il y a 2000 ans, Jésus est venu parce qu'on était déjà dans un état grave, mais là, 2000 ans plus tard, on est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, le truc, c'est que Michael a reçu de nouveau l'ordre, mais pas seulement aussi Michael, mais aussi toute la Fédération Galactique qui a dit, voilà, maintenant, il va falloir défaire ce qui a été fait afin de redonner l'équilibre. Et donc, l'objectif de la Fédération Galactique est de forcément, d'abord, un, c'est la règle number one, préserver la vie sur Terre. Parce que, bien sûr, le but des involuants, c'est de dire, après nous, le déluge. Ça veut dire que si ils disent, ouais, c'est les mauvais perdants, hein, on est d'accord, parce qu'ils n'aiment pas perdre. Donc c'est forcément mauvais pour eux. Donc le résultat, ils préfèrent tout casser, tout annihiler, tout détruire. Comme ça, ils disent, ben voilà, comme ça, c'est la politique de la terre brûlée. Et comme ça, bon, tu as gagné le terrain, mais ce que tu vas trouver, c'est que descendre. Et donc, pour éviter ça, eh bien, la Fédération Galactique a pour objectif, number one, préserver toutes les ressources afin que l'humanité puisse continuer son évolution. Parce que c'est évident que si la Terre est totalement détruite, l'humanité, enfin pour ceux qui veulent avancer, ben ça va être un peu difficile. Donc, préservation. C'est pour ça qu'un certain nombre de règles ont été prises, comme, par exemple, les bombes atomiques, il n'y en aura plus une seule qui explosera sur cette planète, dorénavant. Bon, ça fait déjà 2-3 ans que ça a été dit, ça. Ne parlez pas de troisième, de bombes nucléaires et tout ça, ça n'explosera pas. D'accord? Alors, ça, c'est déjà une première chose. Et puis, ben, la deuxième, c'est de libérer aussi, on va dire, l'enfermement de la planète. Mais cet enfermement de la planète ne s'arrête pas seulement au niveau de la planète. Il a été fait au niveau du système solaire et même il a été fait au niveau de la galaxie. Pourquoi ? Parce que l'expérimentation qui se faisait dans cette galaxie était hautement dangereuse pour toutes les autres galaxies et super-univers. Donc, même la galaxie elle-même avait été enfermée. Et donc, cette galaxie a été réouverte, si ma mémoire est bonne, le 18 janvier 2014. Donc, une bouffée d'air, d'accord, au niveau galactique. Bon, ça, c'est une première chose. Mais l'autre chose aussi, c'est que après, bon, je perds la mémoire au fil du temps, mais le truc, c'est qu'il y a eu ensuite la même chose qui a été faite au niveau du système solaire. Et ils en sont presque arrivés à la planète, mais pas encore tout à fait d'après ce que j'ai compris. Mais ce qu'il y a, c'est que les circuits de communication, parce que, comme je disais, il y a la grille cristalline, en fait, il y a trois grilles cristallines. La grille cristalline est constituée de trois choses différentes. Donc, dans une des choses de ces grilles cristallines, eh bien, la communication a été rétablie. En clair, ça veut dire que aujourd'hui, un intraterrestre peut causer avec quelqu'un du Soleil, qui peut causer avec quelqu'un du Soleil central et aller au-delà de la galaxie. Ça veut dire que aujourd'hui, les réseaux de communication ont été remis en place. Donc ça, c'est comme en période de guerre, hein, l'information doit circuler. Donc quand on a reconquéri un terrain, c'est surtout de rétablir la communication d'abord. Puis après, vous avez les trucs qui arrivent, après il faut reconstruire, après c'est tout le reste. Mais la communication est la première des choses. Donc il y a un effet communication qui a été remis en place donc principalement en 2014. Et là maintenant nous sommes arrivés en 2015 et il va y avoir d'autres réorganisations qui sont on va dire importantes parce que ce sont des réorganisations énergétiques à ce moment-là, parce que vous savez très bien qu'une fois que vous avez remis les communications, il va falloir aussi remettre l'électricité en route, hein, je vous fais des images. Donc il va falloir rétablir la distribution d'énergie, et ça c'est en cours. Hein, c'est en cours. Et après, une fois que vous aurez refait l'établissement de ceci, bah, il va falloir on va dire remettre en route, on va dire, les transports. Et ça, c'est encore une autre chose. Donc, vous voyez que derrière ce vocable gris cristalline se cache en fait plein de choses. Mais pour rester simple, au niveau du préhumain qui découvre la route, faut pas aller trop vite dans les complications. Donc, on donne les choses simplement. Mais une chose est claire, c'est que petit à petit, les différents réseaux sont remis en route, enfin sont remis en place. Et je dirais que même dans certains cas, ils sont tellement détériorés qu'en fait, faut en mettre des nouveaux carrément. Vous savez, c'est un petit peu comme les lignes de chemin de fer. Quand vous avez fait sauter un certain nombre de ponts, vous vous dites, oui, ça avait suivi le côté historique, mais maintenant, on pourrait faire une ligne un peu différente pour aller plus droit, plus vite, hein, et puis qu'il y ait moins de temps. Voilà. Donc, il y a des nouvelles choses qui se font, et c'est pour ça que la Fédération Galactique est très, très, très occupée, entre guillemets, ainsi que les aides de la nature, ainsi que les anges, et ainsi que les archanges, parce qu'ils sont tous au taf pour, on va dire, remettre en état le théâtre, hein, enfin le bac à sable dans lequel on est, et c'est pas simple, parce qu'il y a l'horlogerie céleste qui va avec. L'horlogerie céleste, je vous dis, c'est en fait le sommet qui, entre guillemets, en fonction des positions des planètes, amène des combinaisons, on va dire, énergétiques, qui fait que la chose est déjà prévue, car je vous rappelle que de l'autre côté, le temps n'existe pas, et je vous expliquerai ça plus en détail dans les prochaines vidéos, mais bon, je sais qu'à fur et à mesure qu'on va avancer dans les vidéos, ça va devenir de plus en plus pas compliqué, mais que les gens qui vont débarquer vont se dire, mais c'est quoi ce charabia, j'y comprends que dalle, il va falloir qu'ils reprennent un peu les bases avant, mais bon, ça fait partie, on va dire, de l'information que je dois vous refiler, il en faut pour tout le monde, et pas seulement que pour les débutants qui arrivent, quoi. Alors, les débutants qui arrivent, ils ont qu'à lire les anciens articles et voir les anciennes vidéos avant. Mais il faut quand même que ceux qui sont aujourd'hui aptes à pouvoir avancer aient des informations supplémentaires pour pouvoir continuer leur progression, bien sûr. Alors, qui sont à bord de ces vaisseaux? C'est des entités tout simplement comme nous. Hein. Sont-ils des reptiliens? Il y en a oui, et puis il y en a beaucoup non. Hein. Ont-ils le libre arbitre de faire ce qu'ils veulent? Alors oui, ils sont dans le service ou pas. Et donc le résultat est simple. À partir d'une certaine dimension, ils sont tous forcément au service. Et globalement, on peut dire qu'à partir de la 5D, ils sont tous au service. Yes. Cela signifie-t-il que l'on approche de la 4D à toute vitesse ou ces vaisseaux baissent leur vibration pour se montrer? Alors les deux, en général, c'est-à-dire que la 4D, on a déjà commencé à mettre les pieds dedans, mais on n'a pas fini, on n'est pas rendu au bout de la 4D, ça c'est une évidence, mais aussi, d'une autre façon, c'est qu'ils baissent leur vibration pour se montrer, effectivement. Une question de Grégo. Dans mon SDH, il a été dit que j'étais là pour créer des étincelles. Est-ce que cela veut dire rallumer là où les flammes intérieures? Est-ce que ça a un rapport avec l'étincelle d'esprit? Alors, je dirais oui et non, hein, c'est toujours pareil. Quand on dit que quelqu'un est là pour créer des étincelles, ça veut dire qu'il a des parties en lui un peu anguleuses, un petit peu comme ça serait une hache, hein, entre guillemets, et quand tu te prends un coup de hache, généralement ça coupe et ça fait mal. Et ben c'est là, c'est pareil, c'est-à-dire que grosso modo, tu as une structure qui est faite que tu vas pas laisser les gens indifférents. Ça va faire des étincelles. Alors après, maintenant, reste à savoir si c'est un morceau de silex qui est en face, c'est pas un problème. Si c'est une poudrière, il va avoir un problème. Donc, si ton SDH dit que tu fabriques des étincelles, que tu crées, t'es là pour créer des étincelles, ça veut dire que t'es là pour grosso modo rentrer dans le tas et provoquer du mouvement, comme on dit. Hein. Donc, ça n'a pas de rapport direct avec ton étincelle d'esprit dans le sens électricité du terme, mais ça veut dire que ton esprit directeur, ou donc ton étincelle d'esprit, si tu veux, a pour mission de rentrer dans le temps. Voilà. Alors, en d'autres termes, on appelle ça un guerrier, tout simplement. Alors, un guerrier de lumière, ça veut dire que tu sabres, mais à coup de vérité, quoi. Voilà, c'est ça. Une question de Virginie. J'aimerais comprendre le fonctionnement de nos vies passées, futures et celles-ci qui se jouent tout en même temps. Ça, c'est sur la 3D. Et si je comprends bien, nous avons aussi d'autres nous, d'autres vies dans les autres dimensions. Oui. C'est-à-dire que il faudrait regarder, mais bon, c'est pas toujours facile à décrire, mais nous vivons dans toutes les dimensions. Nous vivons dans, on va dire, 24 dimensions dans la réalité, hein. Mais on va dire ce sont les 12 premières qui sont les plus conséquentes, hein, et qui sont les plus palpables, parce que c'est l'aspect géométrique, donc on va pouvoir les palper, les autres, c'est de l'antimatière, donc ça va être dur à capter. Mais une chose est claire, c'est que nous vivons sur différents niveaux en même temps. Alors, un individu, hein, je prends, moi, par exemple, eh bien, là, c'est un mec de 3D, 4D qui est incarné dans un corps de 3D, 4D, dans l'espace-temps 3D, 4D, qui te cause. Mais dans la réalité, il est connecté de deux façons différentes. Il est connecté d'abord lui-même sur un axe vertical, on va dire, à tous ses autres parties de lui-même des autres dimensions. Et en même temps, à côté de lui, il y a toutes les autres incarnations qui est en train de se dérouler depuis la nuit des temps et pour le futur aussi, puisque dans la réalité, c'est comme un cercle, c'est-à-dire que ce que nous voyons dans le futur est en fait ce qui boucle sur notre passé. Donc devant nous, nous avons l'Atlantide, mais en fait on l'a déjà quitté l'Atlantide. Mais pourquoi? Parce que tout ça, ça se passe en même temps sur le même plateau. Donc sur le même plateau, il y a tout le monde qui joue, mais à différentes époques. Donc tu vois un plateau 3D, 4D qui joue sur toutes les époques dans des incarnations différentes, mais en même temps tu vois qu'il y a d'autres plateaux dans d'autres dimensions qui suivent exactement le même mouvement. Donc nous jouons tout en même temps. Et donc c'est simplement notre conscience qui nous permet de savoir, de suivre un fil plutôt qu'un autre. Donc, pour l'instant, quand je fais des dessins, c'est une autre partie de moi qui m'inspire les dessins. Quand il y a besoin d'écrire, c'est une autre partie de moi qui écrit. Quand je suis poète, c'est une autre partie de moi qui est poète. Et donc, tout dépend quand je me branche à d'autres incarnations ou si je me branche à d'autres parties dimensionnelles. Et bien sûr, il y a un mix des deux. Donc c'est tout un ensemble qui fait que on est d'une vraiment, quand on dit multidimensionnel, c'est ça va dans beaucoup d'axes. Là je ne décris que deux axes, hein, mais ça va dans beaucoup de dimensions différentes, pas seulement les 12 premières dimensions, parce que ça serait les empilages, on va dire horizontaux, mais quand on regarde en horizontal, on a toutes les incarnations qu'on a fait dans ce jeu. Alors maintenant, on peut rajouter une autre dimension, qui est celle de toutes les autres incarnations que nous avons actuellement sur les autres planètes du système solaire. Parce que là, je ne parlais que de la Terre. Mais il y a aussi celle du système solaire. Combien d'incarnations avons-nous eu comme Vénusiens, Mercuriens, Martiens, Jupitériens, etc. On en a aussi des tas, qui eux-mêmes ont aussi une multidimensionnalité verticale, mais aussi sont incarnés dans des corps différents. Alors, c'est sûr que ça peut foutre le blues de dire, mais alors, moi je suis qui, j'en suis où? T'es un petit bout, une très grande équation. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que si tu prends toute cette équation, tu vas voir que ça comprend la totalité de toutes les entités qu'il y a dans la galaxie. Donc, tous les anges, tous les archanges, c'est fou. Les archanges sont en nous, les anges sont en nous. Hein, dites-vous bien, ça je vous l'ai dit, nous avons 144 anges dans chaque incarnation. Alors, vous savez, quand on dit, ouais, j'aimerais communiquer avec un ange, il y en avait 144. Là, bon. Après, vous pouvez communiquer avec aussi les 10 entités planétaires. Après, vous pouvez discuter avec votre soi supérieur. Mais après, vous pouvez discuter avec vos autres soi supérieurs des autres incarnations. On appelle ça les les frères solaires. Et puis après, vous pouvez aussi discuter avec tous ceux qui sont vous, mais incarnés dans un autre corps de matière que vous, hein, et qu'on va appeler les frères atomiques. Enfin bref, le résultat, quand tu regardes quelqu'un en face de toi, tu peux croire que c'est quelqu'un d'autre, mais d'une certaine manière, il n'est pas forcément quelqu'un d'autre, puisque, somme toute, chacun est animé par le sang-nom, et donc est le sang-nom. Donc ça peut aller très loin, donc c'est pour ça que notre petite vision très ratatinée de « Ah oui, mais moi, je suis né à tel endroit, tatati, tatatata, et m'a mis tes couches culottes quand j'avais tel âge », c'est du rognonou, quoi. C'est fait pour le folklore, mais on s'en fout littéralement. Donc si vous avez des photos du passé, vous pouvez les baigner, ça sert à rien, parce que elles n'ont jamais été passées. Enfin bon. Vous imaginez que vous enseigner tout ça n'est pas simple quand on a été éduqué selon des rails linéaires. Voilà, les rails, c'est comme un train. Il y a un rail, il marche pas, il roule pas un mètre à côté. Il est sur les rails, il va peut-être voir quelques passages à niveau, il passera sous des tunnels, mais s'arrêtera à telle gare, parce qu'il va pas s'arrêter en plein champ. Donc on est complètement limité par des façons de voir. On dit voilà, mais s'il y a ça, c'est forcément ça. Donc on veut dire, si on est sur cette voie, c'est forcément qu'il y a une gare, et s'il y a cette gare, ben, il y a forcément l'autre gare, et puis s'il y a l'autre gare, ben, il y a ceci, et voilà. C'est on est complètement coincé, et c'est là que tu découvres que t'es un avion, et puis en fait les rails de chemin de fer, t'en as rien à battre. Mais ça, c'est juste une histoire d'élever sa fréquence, comme on dit. Hein, c'est-à-dire que tu deviens un peu moins lourd, hein, c'est clair que quand t'es dans un avion, t'es quand même moins lourd que le train. Hein. Alors, je vais passer à la question suivante de Benel. Bonjour à tous, c'est sans doute mon côté masculin qui veut savoir si j'ai bien compris, puisque nous sommes à l'image de toute la création, et que pour vivre il nous faut respirer, ma question est donc. Tout se passe en même temps, car en fait, tout le jeu se forme et se joue durant un inspire et le retour en conscience se fait durant un expire. Et on ne sait ce que nous sommes que lorsque l'on revient à ce moment entre les deux, cet instant où il semble ne rien y avoir. Mais comme la géométrie n'est rien sans la vibration et la vibration n'est rien sans la géométrie, alors en fait on ne peut pas s'arrêter de jouer. On sera ou on est toujours quelque chose d'autre tout en étant l'énergie primaire. Ben ouais. C'est-à-dire que les gens qui disent « moi je suis ici, j'en ai marre de ce monde », ils gagnent rien à la faire, sinon, comme dirait l'autre, des points négatifs. Enfin, des points négatifs, des handicaps, on va dire. Donc, on peut rien fuir. Quand on croit qu'on peut fuir quelque chose, en fait, on peut absolument rien fuir. Donc, quelle que soit la situation que vous affrontez dans votre quotidien, fuir n'est pas la solution. Alors, des fois, c'est sûr que ça peut être une solution immédiate. Hein, c'est sûr que si tu vois quelqu'un qui vient avec sa baramine pour te défoncer la bagnole, tu démarres et tu t'en vas, c'est clair. Hein. Tu fuis, hein, parce que comme il y a l'autre, t'as pas envie de te mesurer à l'autre. Mais à part ce cas d'agression, on va dire physique, toutes les situations émotionnelles, toutes les situations de dualité, vous avez intérêt à les regarder en face et à dire voilà, maintenant je choisis, je fais quoi? Alors, soit vous le faites à la même manière 3D avec votre petit mental ego en essayant de trouver la meilleure des solutions, sachant que de toute façon ça va être merdique parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants et donc vous allez créer encore plus de merde qu'avant. Ou soit vous écoutez votre soi supérieur et à ce moment-là votre petite voix et à ce moment-là vous dites bon il va faire la solution la moins pire possible, c'est-à-dire en espérant qu'il y aura moins de merde que si je l'avais fait avec mon mental ego, parce que c'est à peu près ça. Hein. Quand vous êtes mis dans la merde, votre soi supérieur il fait pas des miracles, il fait au mieux qu'il peut avec les éléments qu'il a. Donc ça crée moins de karma, mais vous en avez quand même au bout du compte. Mais de toute façon, dites-vous bien que vous allez retrouver tout ça sur la table, tôt ou tard. Et donc, quand vous êtes dans le processus d'immortalité, pourquoi vous allez devenir immortel? Parce que vous allez virer, en fait, ce qui vous rend mortel. Or, qu'est-ce qui vous rend mortel? C'est tout ce que vous n'avez pas décidé, tout ce que vous n'avez pas, excusez-moi, regardé en face. Donc, ce que vous n'avez pas regardé en face, vous allez le retrouver devant vous. Donc, vous allez ensuite faire votre choix. De toute façon, vous allez prendre une décision, parce que ça fait partie de la chose. Voilà pourquoi on va tout, à fort à mesure que l'on avance sur le chemin, eh bien, comme dirait l'autre, il y a plein de choses qui remontent. Et ce qui remonte, c'est pas forcément simple, et surtout, ça sent pas bon en règle générale. Donc, c'est pour ça que notre corps a de fortes, difficulté et qu'il est beaucoup fatigué et que il recrache des fois du venin un peu à droite à gauche parce que c'est la merde qui était enfouie et il ressort. Il ressort comme il peut. Donc vous avez le processus, on va dire, qui est poussé par ternaire, on est d'accord. Mais après, si vous y allez de bon cœur aussi de votre côté, avec l'osmosé, etc., par osmosé, encodé, compagnie, et que vous faites les exercices de guise, et que, c'est sûr que là, vous mettez du turbo. Mais ça entraîne forcément de la fumée encore plus noire au pot d'échappement. Mais ce qu'il y a, c'est que plus c'est noir dehors, enfin plus c'est noir, plus ça va effectivement fumer noir, plus ça veut dire aussi que ce que vous avez à l'intérieur s'éclaircit. Hein. Donc, si vous jugez votre taux d'avancement en fonction de la couleur du pot d'échappement, vous allez dire « Ouais, mais là, depuis que je fais ça, j'ai plus d'emmerdes qu'avant, et ceci et cela. » Non, c'est vous êtes en train de résoudre ce que vous n'avez jamais résolu. Et c'est pour cela que beaucoup de marcheurs disent « Ouais, mais moi, je pensais que ça, c'est ce problème était enterré, je l'avais dépensé, et puis que ça n'existait plus. » Non, il avait été planqué sous le tapis, il avait été mis dans une boîte à chaussures, rangé dans un placard, mais il n'avait pas été solutionné. Vous savez, le mental ego apprécie vous faire croire que vous êtes libéré de choses. Vous savez, moi, j'ai des gens qui se disent très spirituels, très avancés, très ouverts, etc. Et puis dès que leur copine tombe dans les bras d'un autre type, d'un seul coup, ils sortent la Kalachnikov. Alors qu'ils disaient, non, c'est pas possible. J'ai dépassé ça. Non, je l'aime. Donc, il y a ce que vous pensez pouvoir vivre, ce que vous pensez avoir dépassé, et puis après, vous verrez que quand vous allez augmenter votre fréquence, véritablement, vous allez bien voir ce qui va ressortir. Et croyez-moi que ce qui ressort, c'est pas toujours ce que vous pensez avoir résolu. Yes! Alors, mais qu'est-ce qui se cache derrière, demande Bennett. Ben, le sommeil. N'y a-t-il qu'un seul et unique inspire-expire ou des quantités à l'infini? Il y en a des quantités à l'infini selon les niveaux, les dimensions. Donc, grosso modo, ici, dans cette vie, combien de fois as-tu inspiré et expiré? Maintenant, tu regardes au niveau de la Terre. Combien de fois elle inspire et elle expire? Tous les jours. Ah oui? Quand il y a le soleil qui frappe, quelque part, elle inspire, et puis la nuit, elle expire. Donc la Terre, respire. Et puis après, ben, vous avez la Lune qui va faire la même chose. C'est-à-dire que là où la Lune passe, eh bien, il y a une expansion. Et puis ben, là où elle n'est pas, il y a une rétractation. Donc, c'est aussi un inspire-expire. C'est un secouage de moquette. Donc, et puis ben, le Soleil, c'est pareil. Il a ses périodes d'inspire et d'expire. Et donc, vous regardez, à tous les niveaux, il y a des inspires et des expires. Il n'y en a pas un. Ça ne s'est jamais arrêté. Parce que quand vous n'avez plus d'inspire ou d'expire, c'est que généralement, vous avez expiré et vous avez tout simplement oublié d'inspirer. C'est-à-dire que généralement, quand on dit quelqu'un a expiré, ça veut dire qu'il n'inspire plus. Bon. Donc, l'inspire et l'expire est un mouvement entre un masculin et un féminin, entre un intérieur, un extérieur, et c'est un mouvement. Et ce mouvement s'appelle la vie. Voilà. Pas de mouvement, pas de vie. Une question de Virginie. Si nous sommes tous un et que nous sommes tous comme les gouttes éparpillées de l'ensemble de l'eau, le but est-il de refaire un ? Et comment ? Puisque nous expérimentons en tant qu'individu goutte. Et finalement, qui ou quoi est le un ? Intéressant, n'est-ce pas ? Ça veut dire que, grosso modo, quand tu es une goutte, ça veut dire que tu es séparé. Une goutte d'eau, ça ne peut pas être dans la mer, parce que c'est la mer. Une goutte d'eau, c'est forcément quelque chose qui a s'est évaporé, donc est devenu un nuage ou un brouillard, quelque chose, et qui ensuite se recondense. C'est-à-dire que une goutte d'eau est un ensemble de molécules. Donc, tac, tac, ça se recolle, puis arrive à un moment, pour des raisons dites de gravité, elle redescend. Mais cette goutte d'eau, elle existe que parce qu'elle s'est séparée de la mer. Donc c'est simplement un changement de phase. Donc une goutte d'eau, quand elle retombe dans la mer, eh ben, elle est la mer, puisqu'elle est connectée à 100% avec la mer. Mais quand elle est dans le nuage, on appelle ça un égrégore. C'est un nuage, c'est un égrégore. Et quand c'est une goutte d'eau, bah c'est quoi? Bah c'est, on va dire, une croyance qui tombe. Si je devais prendre sous cette forme-là. Et quand la croyance, elle retombe dans la mer, eh ben, elle se dissout, la croyance. Mais ce que tu es reste. Et toute cette eau, entre guillemets, c'est l'eau, c'est le sans-nom. L'eau, et vous le verrez, avec le temps, et c'est pour ça que c'est un élément très 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 important, l'eau est le médium qui fait c'est le support d'information qui fait la transition entre la terre et le ciel, c'est-à-dire entre l'esprit et la matière. Voilà pourquoi cette eau est si riche, et qu'elle va devenir aussi très très rare. En effet, quand un peuple ascensionne, quand j'ai un peuple, une humanité ascensionne, elle part avec l'eau. Voilà pourquoi vous ne trouvez pas d'eau sur Mars, ni sur Vénus, parce que tout simplement, ces peuples ont ascensionné. Et donc, ils sont partis avec l'eau, puisque l'eau, c'est le support de l'information, mais ils sont partis avec. Donc, c'est pour ça qu'on ne trouve pas d'eau. Sur Terre, on a beaucoup d'eau, ce qui est la preuve que nous n'avons pas encore ascensionné. Et quand nous allons ascensionner en 5D, 6D, il n'y aura plus d'eau sur l'eau de 3D, 4D. Enfin, sur la Terre, sur la réalité de 3D, 4D. Ça va devenir une planète en 3D, 4D. Enfin, si on regardait, comme aujourd'hui on regarde Mars, on voit un désert, on dit c'est inhabitable, il ne peut pas y avoir de vie. Il y a de la vie, mais différente, à un autre niveau. On se bat avec les CD et les cassettes. Hein. Donc l'eau va devenir de plus en plus rare. Donc en version 3D, de plus en plus cher. Vous savez que l'eau potable aujourd'hui, c'est 0,5% de la totalité de l'eau de cette planète. C'est-à-dire l'eau potable disponible. Hein, puisque je crois qu'il y a 2,5% de l'eau potable par rapport à 97,5% d'eau salée. Et sur ces 2,5%, il y en a 2% qui sont sous forme de glace, c'est-à-dire pôle nord, pôle sud, et les neiges éternelles et tout ça, enfin les glaciers. Donc qui sont sous forme solide. Donc sous forme liquide, 0,5% de l'eau de cette planète est sous forme liquide et non salée. Donc c'est pour ça que dans des pays où ça manque un peu d'eau, style Moyen-Orient, enfin où il y a où ça chauffe beaucoup, ben ils se tapent dessus les uns les autres, on comprend. C'est pour capter la flotte parce qu'ils en ont besoin. Donc LE1, l'ensemble de tout ce que tu peux voir, sentir, mais aussi tout ce qui est invisible, et que pour l'instant, tu ne ressens pas encore, mais que tu ressentiras tôt ou tard. Bon, une question de Gact encore. Qui est Alpha et Oméga? Pourquoi veux-tu que ce soit des personnes? On dit que c'est la source de tout univers qui sont maintenant. Qui sont-ils vraiment? Est-ce une entité? À quelle dimension appartient-elle? Alors, ce ne sont pas des entités. L'alpha et l'oméga, c'est tout simplement, comme dirait l'autre, le début. Alors, si on imagine, on va dire, deux serpents qui se mordent la queue, ou un serpent qui se mord la queue, ben, y en a un, c'est l'alpha, et l'autre, c'est l'oméga. Et donc, quand ils se rejoignent, tu as fait le tour du cercle. Donc, voilà, tu reviens à la case départ. L'alpha et l'oméga, c'est la case départ du Monopoly. C'est aussi la cause d'arrivée. Mais quand t'es à l'arrivée, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends un départ. Puis voilà. Et donc, la vie est un cycle permanent, et l'alpha et l'oméga n'est simplement que la même case qui dit départ, arrivée. Ce ne sont pas des entités, c'est un concept. Bonnie, depuis 3 ans, j'ai beaucoup d'infos, avec mal dans le corps, et plusieurs versions de moi me font tourner la tête. Mon corps rigidifie, je trouve de moins en moins de sens à la vie. As-tu un conseil à me donner? Bouger dans mon corps est un calvaire. Bon, eh ben, c'est normal, si tu donnes de moins en moins de sens à la vie, tu te rigidifies, c'est-à-dire tu te rapproches de la mort, d'une certaine manière, puisque la rigidification, c'est revenir vers la 1D, hein. C'est-à-dire tu reviens de plus en plus raide, hein, d'accord? Et donc, bouger dans ton corps est un calvaire, ben ouais, il faut porter sa croix. Donc, ma croix reste à savoir pourquoi tu portes cette croix, hein, et qu'est-ce qui te rigidifie. Voilà. Et quand tu dis que tu trouves de moins en moins de sens à la vie, maintenant tu peux te poser la question, c'est quoi la vie pour toi? D'accord? Donc moi je mettrai la question sous une forme différente. Puis je trouve de moins en moins d'intérêt à la vie 3D. Donc ça veut dire que tu as découvert qu'il existe une autre forme de vie en 4D et en 5D. Et là quand tu as découvert ça, généralement ton corps fait le nécessaire. Mais si tu te vides de la 3D sans avoir rempli par autre chose, il est normal que tu te recroquevilles et que donc tu te réunifies. Une question de Patou. Laurent, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est le plasma? Le plasma, d'après ce que l'on sait, mais bon, je suis pas le scientifique de base, ça serait tout simplement la fusion. C'est-à-dire que quand tu fais un plasma, c'est généralement, tu mets un certain nombre, par exemple, de matières, d'atomes, ensemble, et que quand tu les portes à une certaine température, ils fusionnent, ils n'ont plus d'individualité véritablement, ils forment un plasma. Mais bon, Wikipédia, tout, hein, vous regardez tout ça, c'est... Donc, une question de Jean-Phi. Tu as dit ou écrit un jour que tu pratiquais la méditation transcendantale depuis une 30aine d'années. Ouais, je l'ai pratiqué 30aine d'années. À présent, tu déclares 30 ans de pratique qui se retrouvent à la poubelle en un revers de main. Ouais, mais j'ai pas parlé de la méditation transcendantale. Alors, j'ai moi aussi été initié à cette méditation en 73 et je l'ai pratiquée pendant une 15aine d'années. J'en ai tiré pas mal de bienfaits et d'expériences intérieures. Puis je suis passé à d'autres techniques, puis à rien, sans doute mes programmes avaient loin été encore trop bien ancrés. Ma question, par quel mécanisme vibratoire une méditation, quelle qu'elle soit, se retrouve à terre, voire enterrée face à une technique de respiration, sachant que la méditation implique elle-même un certain contrôle de la respiration? Alors tu dis, j'ai quelques idées de réponse à ma question, mais ce n'est encore que brouillon dans mon mental. J'ajoute également qu'au moment où je rédige ma question, je n'ai pas encore commencé à pratiquer la respiration et vivre enseignée par Lise. Merci de m'éclairer. Eh bien, dans la méditation transcendantale, eh bien, il y a plusieurs choses qui sont pratiquées. Alors d'abord, généralement, avant de faire la méditation transcendantale par elle-même, enfin, quand je dis la méditation transcendantale, il faut, à ce moment-là, spécifier les morceaux. C'est-à-dire tout ce qui touche, par exemple, le mantra. Donc, si tu, avant d'attaquer la phase mantra, il va falloir que tu fasses un pranayama. Pranayama, c'est donc la respiration. Mais avant le pranayama, il va falloir que tu fasses les asanas. Bon, les asanas, c'est ni plus ni moins comme le yoga, mais un yoga amélioré et efficace. Parce que bon, le yoga classique, il amène des avantages, des tas de choses, etc. Mais c'est surtout du statique. Or, si vous voulez, faire de méditation très profonde, il faut décontracter le corps. Et le décontracter, c'est simplement étirer le corps. Donc les asanas, c'est une pratique de yoga, mais qui, au lieu de faire de la position statique pour développer la musculature interne, une musculature interne et externe. La interne, c'est celle qui vous maintient le corps. La externe, c'est pour avoir de la force. Je traduis, vite fait. Donc, les asanas ont pour objectif de vous étirer la carcasse. Hein, c'est-à-dire de faire comme du stretching, comme si on veut dire en anglais. Eh bien, ça vous permet, à ce moment-là, d'étirer toutes les zones de votre corps. Alors l'avantage, c'est que vous savez que quand vous avez des stress, des tensions, ça cristallise. Et donc là, le but, c'est de tirer sur l'élastique. Et donc quand vous tirez sur l'élastique, eh bien ça permet déjà de pouvoir décoller la merde. C'est une première chose. La deuxième, quand vous faites le pranayama, c'est-à-dire une technique de respiration, un pranayama, prana, hein, c'est le prana, yama, c'est l'exercice lui-même. Eh bien quand vous faites les techniques de pranayama, eh bien, ce sont des techniques de respiration. Et donc, ces techniques de respiration, on sont là pour, effectivement, amener le prana. Mais pour ceux maintenant qui ont fait la méditation de guise, eh bien, ils préfèrent parler d'Elvi. Parce que prana, en fait, est d'une certaine manière un mot galvaudé. C'est-à-dire qu'il ne donne qu'une portion de ce qui est véritablement, mais il ne donne pas la totalité. Et surtout, ne décrit absolument pas, tout ce qui se passe dans votre corps. Et c'est ça que je lis. C'est-à-dire que j'ai bien pratiqué 30 ans de méditation transcendantale, c'est-à-dire 30 ans d'asana, 30 ans de pranayama, 30 ans de mantra. Après, j'ai dû faire, je sais plus, moi, une dizaine d'années aussi de sutras. Non, mais bon, tout ça, c'est des trucs. Et donc, le mantra amène des choses extraordinaires. Sauf que si vous faites un super pranayama, c'est-à-dire que vous avez l'information et qu'en plus vous êtes étiré un maximum, la méditation va être excessivement profonde. Parce que ça va faire un décrassage à un niveau impensable. Alors, les gens qui se disent, ouais, mais au moment, je vais faire mes exercices, je vais faire mon mantra, enfin, je vais faire une méditation, parce que les gens qui se disent, mais moi, je sais méditer, ok, très bien. Il existe des milliards de sortes de méditations. Mais en fait, bon, ça, c'est une ligne précise. Qui a pour objectif, en fait, de court-circuiter le mental ego. Bien. Donc, quand vous voulez vraiment court-circuiter votre mental ego, eh bien, il faut permettre, entre guillemets, qu'il y ait un paquet d'informations d'Elvive. Et l'Elvive, c'est ni plus ni moins ce qu'on va appeler la lumière. Donc, ça veut dire que vous faites entrer un maximum de lumière. Mais cette lumière ne pourra fonctionner correctement que si, au préalable, vous avez, on va dire, étiré la carcasse au maximum, à tous les niveaux, c'est-à-dire les muscles, les tendons, et que vous avez fait travailler toutes les articulations. Donc, ayant fait, on va dire, étirer toute la carcasse, à ce moment-là, eh bien, votre corps va être en forme de décontraction. À ce moment-là, vous respirez pranayama et le vive, et la lumière va faire son travail, faisant que quand vous allez taper votre mantra, eh bien, vous allez, à ce moment-là, pouvoir faire une mise à repos, on va dire, de votre mental, hein, et donc aller dans les ondes, je sais pas quoi, parce que je me suis toujours un peu planté dans les θ, les alphas, j'en ai rien à battre, mais en fait, vous avez un état de repos profond, qui fait que avec 20 minutes de méditation, alors bien sûr, plus 5 minutes de pranayama, plus 10 minutes d'asana, eh bien, vous allez quasiment faire 8 heures de sommeil, remplacer quasiment 8 heures de sommeil. Donc, ça, je sais qu'il faut pas le dire, hein, qu'il faut pas lire parce que si vous dites ça, ça y est, ils vont pas être contents parce qu'ils sont un peu bornés quand même à la méditation transcendantale. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand vous pratiquez régulièrement, moi j'ai abandonné parce que ça ne valait plus. Enfin, j'avais dépassé le stade entre guillemets, il fallait passer à autre chose. Mais le truc, c'est que c'est sûr que si en une demi-heure, grosso modo, montre en main, vous pouvez remplacer 8 heures de sommeil, vous gagnez du temps dans votre vie. Et vous êtes surtout beaucoup plus cool, vous êtes beaucoup plus zen, et que vous décrassez à fur et à mesure la merde. qui fait que vous interprétez pas, quoi. Et même mieux, vous allez chercher de plus en plus profondément. Et donc, vous pouvez bien sûr faire des expériences, on va dire, très profondes de l'unité. Et donc, quand vous retrouvez en conscience de l'unité, c'est-à-dire que vous avez touché, on va dire, le summum de la loi de l'un, vous êtes en conscience de l'unité, c'est-à-dire que votre corps pratiquement vibre à l'unité totale, vous en rappelez toute votre vie et vous rendez compte que aller bouffer une frite ou une pizza, ça n'a rien à voir. Que tous les plaisirs de ce monde sont ridicules. Mais bon, vous avez connu ça. Donc après, il y a d'autres strates, mais comprenez bien que la méditation transcendantale a apporté énormément à cette humanité, mais vraiment énormément. Et ce qui se passe, c'est que en un seul cours de guise, j'ai compris que ce que j'avais fait en 30 ans de pranayama était ridicule. C'était ridicule. La puissance de la méditation de guise, si je l'avais connue avant la MT, j'aurais peut-être jamais fait la MT d'ailleurs, hein. La MT c'est la méditation transcendantale, et même si je l'avais connue pendant, ça aurait boosté, mais à un niveau, je serais déjà Christ. C'est dément. Donc on voit bien que, et c'est pour ça que j'avais une certaine résistance toujours par rapport à ce pranayama. J'ai acheté des bouquins, j'ai regardé, j'ai pratiqué, j'en ai fait des trucs, mais il y a quelque chose qui clochait quelque part, et je savais pas quoi, mais je sais maintenant pourquoi. Il manquait un morceau. Et donc la méditation de guise apporte le morceau qui manque. Et ce morceau qui manque, c'était l'expire. Ce qui se passe à l'expire. Parce que ce qui se passe à l'inspire, je l'ai découvert après. Parce que j'ai abandonné, entre guillemets, la méditation transcendantale pour devenir en fait respirien. Donc un respirien, vous savez ce que c'est quelqu'un qui ne boit plus, qui ne mange plus. Et donc, je ne faisais que respirer. Et donc, je faisais de la respiration pranique. Et donc, j'ai fait ça pendant 5 mois et demi. Donc, quand vous êtes pendant 5 mois et demi sans boire ni bouffer, je peux vous dire que t'as plus d'un qui vous a donné pour mort. Hein. Quand on vous dit si au bout de 3 jours vous n'avez pas bu, vous êtes mort, je souris. Donc, déjà, j'avais découvert la respiration pranique qui m'avait fait, entre guillemets, bah, grâce à la MT d'ailleurs, d'une certaine manière, j'ai poussé le bouchon, mais même la respiration pranique, je l'ai arrêtée à un moment, parce que sinon j'allais dégager, j'allais partir, j'avais plus vraiment rien à faire en ce monde. J'étais vraiment l'ovni total, et plus personne, et j'étais une insulte à la vie pour les gens, parce que c'était pas possible qu'on puisse vivre sans boire ni manger. Même ma propre femme ne pouvait plus blairer, donc... C'était difficile parce que là, socialement, c'est les gens vous envient, ils sont tellement jaloux, mais en même temps, ils sont prêts à vous tuer, quoi, parce qu'ils ne peuvent pas supporter, parce que dès qu'ils vont se mettre à manger ou à boire, ils vous regardent et ils disent « putain, merde !» Et donc, ils ne le supportent pas, ils deviennent très très agressifs et très méchants. Donc, j'ai préféré arrêter d'être respirien pour pouvoir rester parmi, on va dire, les hommes. Voilà, ça c'est l'histoire. Et en fait, l'autre morceau de l'histoire, c'est que Guise, dans cette méditation, a apporté l'autre moitié qui manquait. Et en fait, en faisant la première partie, celle du ciel, eh bien, j'ai redécouvert la respiration pranique expliquée tout simplement, que j'avais découvert, que j'avais pu faire spontanément, sans savoir comment fallait s'y prendre, parce qu'à chaque fois qu'on me demandait comment tu fais, j'arrivais pas à expliquer. Et Guise, en trois phrases, il a dit, et quand j'ai fait, j'ai bisbisé, c'est ce que je faisais avant. Et il manquait le deuxième morceau, et ce deuxième morceau, c'était donc l'expire, tout ce qui se passe à l'expire. Et quand j'ai fait ça, j'ai la machine qui s'est mis à ronronner, c'était classe. Donc, c'est pour ça que je dis que 30 ans de pranayama, qui m'a amené à être respirien d'une certaine manière, mais en abandonnant quand même la MT d'une certaine manière, mais j'étais encore sur ma faim, il manquait quelque chose. Parce que devenir respirien, c'est pas en faisant pranayama que tu vas le devenir. Hein. Si tu suis les enseignements qu'ils donnent, tu ne deviendras jamais respirien. Donc ça veut dire que c'est vraiment des techniques qui ont été Bon, ça, c'est à l'image de la cabale et de tout son arbre de vie avec tout le baratin, tout le truc qu'il y a autour. Je peux vous dire que c'est d'une simplicité nettement plus. Mais c'est simple, c'est d'une évidence. Mais il faut passer par votre guide pour suivre le chemin et pour éviter de vous faire griller, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, dernière question. Olivier, il y a trois questions. Est-ce qu'il y a, alors, exercice de guise, Olivier, est-ce qu'il a été taoïste ou maître de Qigong dans une vie passée, car les exercices proposés ressemblent beaucoup à ceux du Qigong, notamment les six sons pour le nettoyage vibratoire. Il faut savoir que l'enseignement dont l'homme a besoin pour ressusciter, pour ascensionner et ressusciter, a déjà été donné à l'homme depuis belle lurette. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien de neuf. La seule chose, c'est que dans les enseignements de Guise, tout a été, l'inutile a été viré, le falsifié a été viré. Donc il ne reste que l'essentiel. Et c'est ça quand on a besoin pour avancer, pour être efficace, c'est d'avoir l'essentiel. C'est pas de se taper des tonnes de merde et dire je vais faire du Qigong pendant 30 ans, alors qu'en une séance tu peux faire la même chose. Mais l'information initiale, est toujours là. Vous savez, c'est comme un morceau de fer d'acier. Avec le temps, ça rouille. Et donc, aujourd'hui, la majorité des enseignements, c'est en fait un tas de rouille. Et si tu veux retrouver l'acier originel, il faut vraiment gratter, et quand tu le trouves, tu vas peut-être pas pouvoir en faire grand-chose. Là, Guise, il nous donne carrément l'acier lui-même. Toute la rouille, il l'a pas ôté, il a donné l'acier lui-même. Donc ça veut dire que ça n'a pas le temps d'être rouillé par des tas d'interprétations, des tas de choses, puisque l'objectif, c'est que vous en fassiez l'expérience directe, c'est-à-dire sans passer par le mental. Voilà pourquoi Guise, il donne quand même des explications, mais ça reste, on va dire, à un certain niveau, et d'une certaine manière, on compte un petit peu sur moi pour donner plus de détails après, parce que l'objectif, c'est qu'il faut que vous fassiez les exercices avant. Vous faites les exercices, vous découvrez comme un gamin découvre quelque chose, et il vous le fait. Puis après, quand vous aurez ressenti les choses, quand vous aurez vu ce que ça vous aura fait, vous pourrez toujours y apporter toutes les compréhensions que vous voulez, y mettre le mental ego que vous voulez, mais sachez que ça sera plus un frein à quelque chose. Restez dans l'état d'innocence de l'enfant qui découvre. Et c'est pour ça qu'il parle de la chambre. Mettez papa, maman dehors et faites pas chier. Donc papa, c'est toute l'autorité, le mental, le côté masculin, le logique. Maman, bah, c'est tout le côté bisounours, je t'aime, le paradigme, tu vires tout ça, t'es l'enfant, tu dis voilà, j'ai plus d'autorité, j'ai plus de machin, j'ai plus de trucs, je fais l'expérience en direct, innocemment. Et là, quand t'as découvert la chose, bah, tu verras que tu pourras séparer le blé de l'ivraie, alors avec une vitesse phénoménale, et c'est là que tu verras que les gens qui parlent de choses, de grands trucs et de grands machins, parce que c'est des gourous de machin, tu diras, ah, tiens, il a pas tout compris parce qu'il a pas tout découvert, parce qu'il a pas tout vécu. Et c'est comme ça que les choses deviennent beaucoup plus faciles. Et j'ai eu le témoignage de plusieurs personnes qui m'ont déjà fait le cas, qui m'ont dit, bah écoute, plus j'avance en fréquence et plus je me rends compte que ceux auxquels on s'abreuvait avant sont en fait des menteurs. On sent tout de suite là où ils ont inventé ou ça, où c'est leur mental qui a pris le dessus, parce que s'ils avaient vraiment vécu la chose, bah ils diraient pas ça. Donc voilà, c'est la force de l'expérimentation. Quand vous avez expérimenté, vous savez. Et quand vous savez, eh ben vous pouvez l'expliquer sous tous les termes, sous toutes les coutures, ça marche. C'est évident. Et on va dire, putain, mais comment t'arrives à simplifier, à faire aussi simple, et comment t'arrives à être un super pédagogue alors que les autres, il faut lire des bouquins entiers pour essayer de comprendre un truc et avoir un déclic, parce que si tu ne l'as pas vécu, tu pourras tourner autour du pot autant que tu voudras. Mais tu ne seras pas dans le pot. Donc, vivre la chose, c'est d'être dedans. Ok ? La deuxième question, est-ce que les trois moteurs dans tes explications correspondraient aux trois Dantian taoïstes ? Eh ben, je vais te dire sincèrement, j'en sais rien. Il y a de fortes chances parce que moi je suis pas taoïste, dans le sens que j'ai pas suivi cet enseignement. Le Qigong, j'en ai entendu parler, comme bien sûr beaucoup de gens sur mon chemin. J'en ai rencontré des tas de maîtres de Qigong, enfin de ceux qui enseignaient, qui donnaient des stages et tout ça, etc. J'ai même participé à certains trucs. Si on me dit, si je me suis dit même c'est celles qui vont, bon, bah alors, j'ai dû louper une marche, là, parce que, franchement, c'est pas ce que je pensais. Mais, voilà, mais chacun, vous savez, c'est comme tous les gens qui découvrent la sophrologie. Ils disent, ouais, la sophrologie, putain, mais c'est, ils ont découvert le nirvana. Et puis, bah, s'ils avaient vraiment découvert tout ça, aujourd'hui, c'est eux qui m'enseigneraient, c'est eux qui me ferait faire des qui mettrait des méditations sur Internet, qui ferait tout ça. Ben non, ils sont où? Ils sont où? Ils sont à donner des stages à droite à gauche pour se faire du beurre. Mais ils sont où? Donc je dis, ben, chacun son niveau, chacun son truc, mais sachez que c'est pas ceux qui font plus de bruit, plus de pubs, hein, et qui vous font payer des stages qui sont forcément les plus avancés. J'ai rencontré trop de soi-disant grands maîtres taoïstes ou qigong, pratiquants ou enseignants ce type d'exercice. Pourtant, aucun d'entre eux ne m'a paru vraiment équilibré, respectueux et non avide d'argent. Alors, est-ce que les vrais maîtres se cachent et n'enseignent pas aux pèlerins Pékin moyens, ou est-ce qu'il manque quelque chose dans les enseignements taoïstes qigong? Ce n'est pas une religion et il y a beaucoup de principes très similaires à tes explications. Est-ce que ça aussi a été trafiqué? Bon, ben, tout a été trafiqué. Ça, il faut partir de base, sinon les involuants, ils n'auraient pas fait leur job. Et croyez-moi, ils sont méticuleux et certainement beaucoup plus rusés, puisqu'ils en sont quand même arrivés à faire tout ce que, bah, tout ce qui existe dans ce bac à sable. Donc, prendre les involuants pour des cons est la première erreur. Généralement, ils sont plus intelligents, plus rusés, et surtout beaucoup, beaucoup plus efficaces, hein, pour vous amener là où ils veulent. Donc, attention, quand quelqu'un dit oh, « non, non, mais moi je vais être plus fort que tout ça », vous êtes sûr que c'est son mental ego qui est en marche et que la majorité des règles qu'il a dans le crâne ont été spécifiquement mises justement par ces involuants. Donc eux, ils savent exactement ce que vous avez dans le crâne, ben, ce que vous avez dans le crâne d'abord parce qu'ils contrôlent les circuits d'information, mais deux, ils ont même écrit les lignes de programme de comment vous allez réfléchir et penser. Donc je peux vous dire, se battre contre eux est la preuve d'un orgueil. C'est évident. Et c'est pour ça qu'on vous dit, ayez un guide. Un guide de l'invisible, et ce guide de l'invisible, il ira droit au but. Et le premier guide de l'invisible que vous avez s'appelle votre soi supérieur, car lui, il est dans les lois de l'un et ne peut pas y déroger. Parce que la majorité de votre vie que vous vivez est pour lui une pure illusion, et c'est pour ça qu'il a du mal à vous comprendre, et qu'il y a quelquefois des difficultés de communication entre lui et vous. Alors il se démerde par tous les moyens qu'il peut pour essayer de communiquer avec vous, mais c'est pas simple. C'est pour ça qu'entre autres, qu'il y a eu un intermédiaire appelé l'âme. Parce que franchement, c'est plus du grand écart qu'on a fait. On nous a coupé les pattes et il y a 3 km d'écart entre chaque pied. Donc, on a effectivement un certain nombre de problématiques. Et croyez-moi que tous les gens qui se disent maîtres de ceci ou maîtres de cela, ils ont peut-être une maîtrise peut-être d'un certain nombre de choses, mais je crois qu'ils n'ont pas forcément la vue du tableau général. Parce que, grosso modo, si vous dites je suis maître de quelque chose, c'est que vous êtes forcément séparé du tout. Hein, c'est-à-dire que si c'est de quiconque, c'est que c'est pas d'autre chose. Et puis c'est pas d'autre chose et que c'est pas d'autre chose. Donc, un véritable maître, il est aussi bien taoïste, shintoïste, tout ce que vous voulez, aussi bien musulman, catholique, bouddhiste, il est. Parce que quand on va à l'essentiel, eh ben, comme dira l'autre, vous n'avez rien à battre de toutes les étiquettes puisque vous avez l'essence même des choses. Donc d'abord, quelqu'un qui est maître, il se dira jamais maître. Parce que c'est une aberration, c'est un manque d'humilité totale. Donc moi, quand quelqu'un me dit je suis maître de Reiki, je souris. Intérieurement, je souris parce que je me suis dit, tiens, il y en a un, il a le mental ego, là, il a bien mis ça au carré. Hein. Et en plus, ça s'achète. Hein. Donc, non, mais c'est complètement dingue. Le seul qui pourra vous dire que vous êtes maître, c'est quelqu'un d'invisible. Et la seule démonstration que vous pouvez faire, entre guillemets, en tant que maître, c'est de devenir, tout simplement, un maître ascensionné, et mieux, un Christ. Car quand vous êtes Christ, là, il n'y a plus personne qui peut dire que ça joue pas, puisque un Christ englobe la totalité des choses. Ce qui n'est pas le cas d'un maître ascensionné. Un maître ascensionné, je vous rappelle, c'est un individu qui est arrivé à ce niveau de la 12e, 13e dimension, très bien, mais dans un corps de mâle ou un corps de femelle. C'est-à-dire qu'il a la vision géométrique ou la vision vibratoire. Mais il n'a pas les deux en même temps. un Christ a les deux en même temps. Donc là, comme dirait l'autre, il est toute catégorie. Donc un véritable Christ, c'est quelqu'un qui est un maître dans la totalité des choses, et non pas dans une partie des choses. Donc, être maître dans une partie des choses, bon, ça peut faire bien si vous avez un CV et que vous voulez gagner votre vie. Voilà, je suis maître de ceci, ou je suis maître de cela, je suis expert en cela, je suis ceci en cela. C'est pour se vendre comme esclave, c'est bien. Mais si vous êtes sur le chemin, et c'est pour ça que vous comprendrez que je ne vends rien. Et je n'organise pas de stage, et j'ai pas d'enseignement à donner. J'ai des infos à donner à l'humanité, je les donne, point barre. Enfin, maintenant, faites ce que vous voulez avec. C'est pas mon problème. Bon, alors, Brigitte vient me dire que il y a presque question posée sur le chat, et bien je vais y répondre, puisque moi, il n'y a pas de problème.